Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Un grand plaisir cette semaine de discuter avec Dominique Gagnon de son histoire et surtout de l'histoire de Connect & Go. Ceux qui le connaissent déjà savent que malgré son jeune âge, Dominique a déjà 17 vies d'entrepreneur d'accumuler en une seule. Des hauts, des bas, on en a tous comme entrepreneurs. Dominique, de son côté, en a eu plusieurs, jusqu'à même pratiquement tout perdre à deux reprises. Son parcours et son partage est tellement intéressant qu'il était pratiquement impossible de garder le podcast en dessous de notre cible de 40 minutes. C'est pourquoi on a décidé de séparer cet enregistrement en deux épisodes. L'épisode que vous allez écouter à l'instant traitera du début de Connect & Go jusqu'à sa vélocité d'aujourd'hui. Et la deuxième partie qui suivra traitera des apprentissages intéressants à partager de la part de Dominique. On parlera également de levée de fonds, d'intelligence artificielle et de monétisation pérenne de sa solution développée. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Dominique Gagnon, CEO et co-founder de Connect & Go. Merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Premièrement, comment vas-tu?
Super bien. Un peu fatigué. Je reviens de Toronto. Fait que ça a été une trentaine de rencontres en deux jours à raconter notre histoire à des groupes de private equity, de VC et différents intervenants. Fait que un petit peu plus fatigué ce matin, mais quand même bien enthousiaste. Fait que énormément de mouvement en ce moment.
Mais merci beaucoup d'être des nôtres tôt ce matin. Je sais que tu as un horaire très chargé, mais on avait très hâte de pouvoir te parler sur le podcast. On a eu la chance de se croiser dans une mission commerciale il y a de ça 13 ans en Europe, alors que tu étais en mode service pour... je dis en mode service parce qu'aujourd'hui, tu es plus en mode entreprise de produits startup. Mais c'était l'entreprise Piranha à l'époque. Donc, je te suis du côté des médias là, très activement, puis c'est beau de te voir aller. Puis j'avais hâte d'en connaître un peu plus sur tout ce qui s'est passé durant ces 13 dernières années-là. Donc, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, Dominique, peux-tu expliquer un peu qu'est-ce que Connect & Go? Puis après ça, on va pouvoir reculer un peu dans la genèse là, de comment ça a démarré, puis tout ce qui s'est passé. Parce que honnêtement, tu as 17 vies d'entrepreneur en une. On va se concentrer sur Connect & Go, qui a 3 vies en une également là-dedans. Donc, explique-nous un petit peu, Dominique, qu'est-ce que Connect & Go pour les gens qui connaissent pas encore l'entreprise?
Ouais, ben Connect & Go est très, très reconnu dans l'écosystème. Puis encore, souvent, des gens nous associent à ça. On a énormément changé. Au départ, on était un système de bracelet intelligent utilisé dans les plus grands événements à travers le monde. Ça veut dire que je pense qu'il y a très, très peu de gens qui nous ont pas porté. C'est nous qui faisait que ce soit les bracelets RFID pour le Festival d'été de Québec, Oceaga, la Formule 1 à Montréal, ou à l'international, des événements comme Bonnaroo, comme Coachella, comme les Jeux olympiques de Pyeongchang ou encore le Super Bowl à lequel on a eu la chance de participer à deux reprises. Donc, le début, c'était réellement un bracelet à puce qui permettait de faire principalement trois choses qu'on appelait « enter pay play » chez nous, donc le contrôle d'accès, tout l'aspect du « cashless payment », donc de faire disparaître l'argent physique dans les grands événements. Puis par la suite, tout ce qui était « experiential », donc comment on est capable de déclencher des expériences par ce système-là. Donc, ça a été notre postulat de départ. Ça a été ça qui a créé l'entreprise, cette idée-là, suite à un projet. Mais il y a eu un pivot, hein, puis c'est le nom du podcast. Fait que nous, moi, j'appelle plus ça qu'un pivot. J'appelle ça un « reboot total ». Parce que 100% des clients, 100% des employés, 100% du tech stack ont été refaits en 2020. Donc, je dirais, c'est plus un 360. Et aujourd'hui, on est une plateforme de gestion tout en un pour les parcs d'attractions. Donc, un parc d'attractions, parc à thème, donc Six Flags, on pourrait penser à ce type de parc-là. On fait des zoos et des aquariums, le zoo de Granby, le parc safari, un peu plus proche de chez nous, on fait des parcs aquatiques, le Super Aqua Club. Donc, on peut travailler avec des musées, des Family Entertainment Center, donc comme le Mégaparc à Québec, qui sont sur notre plateforme. Et on est un peu comme un ERP, donc un petit peu comme un SAP des attractions. Donc, quand on va dans un parc d'attractions, on remplace 12 solutions en moyenne. Donc, souvent, ils utilisent plein de pièces de software pour faire une chose. Et nous, on a réussi à consolider ça dans une plateforme qui est évidemment propulsée par l'info numérique.
Et tu parlais des bracelets au départ. Pour ceux qui ont Netflix, si vous avez écouté le documentaire sur le Fire Festival, vous allez voir qu'il y a des bracelets durant l'histoire. Mais c'était vos bracelets à vous, là, à l'époque, je pense qu'ils étaient dans cet événement-là.
On était sur place. On était sur place. Donc, nous, on a vécu la vraie histoire, la vraie sandwich au fromage. Je sais pas si tu sais, Billy a reçu le financement pour faire Fire Fest 2. Ce qui est quand même hallucinant de dire qu'il a réussi à lever le financement. Semblerait qu'il va faire Fire Fest 2. Et en fait, ça me surprend plus ou moins parce que je me rappelle, il avait fait un sondage quelques semaines après le flop. Il avait demandé à tous ces jeunes riches millionnaires, si vous avez le choix entre avoir un crédit pour Fire Fest 2 ou un remboursement, que choisissez-vous? Et la plupart des gens avaient demandé un crédit. Tu sais, oui, quand on voit le documentaire, ça a l'air de ce que c'était, un réel shit show. Mais reste que ça valait la peine d'être là parce que c'est une bonne histoire, tu sais, surtout dans le temps d'Instagram où on cherche des histoires exclusives. Il y a très peu de gens qui ont été à Fire Festival. On en fait partie. On était une dizaine, je me rappelle bien, qui était là-bas. Donc oui, on a participé à Fire Festival et on est le seul fournisseur. Ça l'a fait le Journal de Montréal qui a été payé parce qu'on trustait pas Jarrell et Billy depuis le départ. Fait qu'on avait dit c'est 80% payé avant sinon on vient pas. Merci Dieu parce que clairement ça a été un bon move. On n'aurait pas été payé par la suite.
Vraiment intéressant. Tu parlais de Reboot, Dominique, parce que moi, je t'ai suivi pendant la pandémie, puis honnêtement, c'est hallucinant la résilience que tu as eue pour ton organisation, puis comment vous avez bougé, pivoté, puis comme tu dis, faire un reboot. Mais j'aimerais ça qu'on recule un peu plus loin en arrière de comment Connect & Go est né, puis comment que tu as transféré dans Connect & Go parce que tu avais d'autres entreprises, d'autres organisations. Parle-nous un petit peu de ça, Dominique. Là, on recule avant Connect & Go, là.
Ouais, ben quand on s'est rencontrés, j'étais dans le service. Puis parfois, je m'ennuie un peu de cette époque-là parce que ce que j'adorais du service, c'était que je touchais à de multiples projets à la longueur d'année. T'sais, on travaillait autant sur des gros projets d'applications mobiles. Dans ce temps-là, on faisait de la messagerie texte, mais on était aussi une compagnie d'expérientiel, ce qui veut dire qu'on faisait de la commandite. Donc, on faisait des grosses activations pour Bell, etc. Puis souvent, on faisait un mélange d'événements et de technologies. Puis en fait, Connect & Go, c'est un peu la même chose. C'est un mélange d'événements et de technologies. Si je recule plus tôt dans ma carrière entrepreneuriale, j'ai fondé à 13 ans et demi mes deux premières entreprises. Puis la première, c'était une compagnie de production de spectacles. Donc, j'étais le plus gros producteur de spectacles de punk au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais aussi le plus capitaliste, sincèrement, de tous ceux-là. Je me rappelle, j'ai le droit de parler de ça, mais j'appelle ça de l'économie circulaire. J'avais des gens qui confisquaient le pot, des gens qui en fumaient dans la salle. J'avais des gens qui lui revendaient le même stock dans d'autres baguilles. Fait que c'était quand même des bonnes années entrepreneuriales. Mon éveil entrepreneurial est arrivé tôt et je créais des sites web. Probablement que tu t'en rappelles, à peu près à même âge, je faisais des sites avec Web Expert 2000. Le défi, c'était que le frame du haut puis le frame du gauche se touche pas. Je suis devenu médiathèque communication, je faisais des sites web. Fait que ce que je me rends compte, c'est que dans toute ma carrière, j'ai toujours mélangé l'événementiel et la tech. Ça a toujours été deux passions. Et Connect & Go, ben, j'avais Piranha à ce moment-là, qui était une agence quand même assez florissante au Québec, mal finie. On tombera pas là-dedans, ça prendra un épisode complet, mais qui a été très difficile pour moi dans mon aventure entrepreneuriale suite à une fraude. Mais à ce moment-là, je me fais appeler par un client. On travaillait beaucoup avec des grandes agences. Et l'agence Bleu Blanc Rouge m'appelle, me dit, on a le stade Saputo, puis on aimerait faire une campagne, puis du fait que c'est italien, on aimerait donner la clé du stade. Donc, ils ont dit, on aimerait ça créer une clé dans laquelle on mettrait une puce. Quand les gens arrivent au stade, on scanne et ça dit « Bonjour Dominique, bienvenue chez vous » sur un giant screen. Et évidemment, je dis « Ouais, on est capable de faire ça. » Aucune idée comment. J'ai certains doutes. T'sais, la technologie RFID était déjà commencée à être assez démocratisée à ce moment-là. On parle d'il y a 10 ans à peu près. Donc, je m'en vais sur Google, comme bien des gens. Je tape RFID. Je trouve une compagnie qui s'appelait Academia RFID, qui était une genre d'école de formation RFID et aussi une compagnie qui mettait des puces dans des camions de transport pour une compagnie qui s'appelait Liaison Kenyus, grosse compagnie de transport, et qui traquait la fraîcheur des produits. Donc, j'envoie un petit courriel, je dis « on a un projet », et la personne qui me répond s'appelle Anthony Palermo, c'est mon associé aujourd'hui. Il me dit « ben, aucun problème, c'est le genre de projet qu'on sait faire, on pourrait se rencontrer ». Je me déplace au bureau de la compagnie qui était située dans les bureaux de la compagnie de transport. Mon associé est un écrivain de pièces de théâtre, donc il est très, très bon pour jouer du théâtre. Dans la vraie vie, il était deux employés. C'était très, très petit, mais il savait que c'était un très gros projet pour lui. Et il a vraiment joué, je me rappelle, j'arrive dans le bureau, il est en complet veston. Si des gens ont vu Anthony dernièrement, vous allez comprendre, c'est plus son style du tout. Et il me fait faire le tour, puis il avait demandé aux employés de faire comme si c'était le boss de l'entièreté de l'entreprise. Fait que, tu sais, tout le monde, il disait « Salut, dans les couloirs ». J'étais comme « OK, c'est crédible, tu sais, comme compagnie ». Puis on rentre dans son bureau, on parle du projet, puis il y a des gens qui viennent y faire signer des chèques. Mais il m'a dit 5 ans plus tard que c'était des faux chèques. En fait, c'était juste pour des... Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de crédibilité à ce moment-là. Tu sais, il était vraiment au tout départ. Puis il me dit « Ouais, ouais, on est capable de faire ça ». Donc, je dis « Parfait ». Et il dit « T'es le premier qui me dit « J'ai 75 000 pour faire ça, t'es-tu correct avec ça ?» Il dit « Généralement, les gens nous demandaient une soumission. » Fait qu'il dit 75 000, j'allais dire 25 000, tu sais, que j'étais correct. Fait qu'il dit, je fais, oh, ouais, je pense que ça va être correct avec ce budget-là. On a fait le projet ensemble. Moi, j'avais dit qu'on avait 75, parce que je l'avais vendu 250. Hein. C'est ça qu'on faisait en agence dans le passé. On se prenait des bons pourcentages au passage. Et on a fait le projet. Ça a été un grand succès. C'était dans le temps, c'était cool. Ça, on pouvait publier sur le Facebook des gens sans leur permission. C'était dans ces bonnes années-là. Fait que quand les gens scannaient en plus... Ça disait « Bienvenue chez vous », ça disait sur leur Facebook qui était au stade Saputo. On avait fait ça à Oceaga aussi, on avait spammé Oceaga, je pense 72 000 « Je suis à Oceaga » parce que quand tu rentrais, ça le disait sans que tu le saches. Et suite à ce projet-là, puis ça a vraiment été un moment, tu sais, un peu les moments éclairs que t'as. Je suis rentré dans le bureau d'Anthony, j'ai dit « Anthony, ce qu'on a fait, c'était pas un projet, c'est une business. Ça va s'appeler Connect & Go, puis on va conquérir le monde. » C'est vraiment comme ça, ça a sorti comme une révélation, là, tu sais, dire. Puis là, Anthony, il me regarde un peu croche, tu sais. Puis il dit, ouais, il dit, ça me tente. Fait que, on a fondé Connect & Go comme ça.
Je t'arrête là, Dominique. Dans le fond, vous avez fait le premier projet, puis après ça, t'es rentré avec une bulle un matin dans son bureau, puis t'as dit, on le fait sans plan, sans stratégie, sans rien. Puis t'as dit, let's go, on le fait, là.
Souvent, je dis à la blague que le meilleur plan, c'est de pas en avoir. Mais, tu sais, Piranha, c'était aussi un moteur à ça. Tu sais, Piranha a créé plein d'autres entreprises. Tu sais, j'avais Mozo Technologies, on faisait du publishing sur iPad. J'avais créé rabaismobile.com que j'ai revendu, qui était une plateforme de genre de pageon de rabais. Fait que j'utilisais l'agence comme un incubateur à projets et à produits. Ça vient de mon trouble d'attention et d'hyperactivité. Dès que ça commence à être routinier, je cherche quelque chose. Mon radar est à la recherche de la prochaine opportunité. C'est un de mes défis, évidemment, le focus. Fait que ça a vraiment été... Puis ce qui est drôle, c'est qu'on s'appelle encore Connect & Go. C'est vraiment le nom. Parce que, tu sais, c'était Connect & Go. Fait que tu scannes et tu peux rentrer. Donc, le nom est venu très, très rapidement. Et le projet. Puis après, ça a juste été un feu roulant. Mais ça a été... tu sais, c'était au début, c'était juste la sous-traitance d'un projet entre deux compagnies ensemble. Et je pense que quelque chose comme 8 mois plus tard, on faisait Oceaga. Donc, Oceaga qui est reconnu à l'international. On le réalise pas parce qu'on est du Québec. Mais Oceaga, là, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent à Oceaga, dont les grands producteurs d'événements. Donc, on a fait Oceaga à ce moment-là en contrôle d'accès. Ça a été un succès. Et par la suite, ben, ça a été une aventure dans laquelle on a fait des centaines de festivals et d'événements à travers le monde, en passant du Super Bowl par les Jeux olympiques, par Firefest, par un événement en Arabie saoudite où Elon Musk, Richard Branson et Bill Gates portaient notre technologie. Donc, on a vraiment vécu à ce moment-là là, des moments assez incroyables et assez difficiles parce que l'événementiel, c'est assez rock'n'roll.
Et là, on parle, ça, c'est la période de 2013 à 2, jusqu'avant la pandémie environ. Là. On parle de cette zone-là de temporelle.
2018, je dirais, on commence à avoir une réflexion. En fait, nous, au départ, la compagnie était profitable, bootstrap. On n'a jamais levé de fonds entre 2013 et 2018. C'était zéro levé de fonds. Meilleure année, 1 million de profits. Donc, quand même, une compagnie en tech, mais qui réussit à tirer son épingle du jeu au niveau de la profitabilité, etc. Et à un certain moment, ben on se dit, OK, comme tout le monde, hein, tu sais, tu lis les médias, puis tu fais, tout le monde lève des fonds. Faudrait peut-être penser à ça, nous autres aussi. Et là, on se met à se questionner sur dire, bon, on va aller regarder si on peut avoir du financement, parce qu'évidemment, on voulait aller plus vite, on voulait être plus ambitieux tout le temps. Il y avait peut-être des petites cibles d'acquisition. On fait un premier tour des VC américains, canadiens. Puis bizarrement, tout le monde nous dit, ah, vous êtes profitable, pas terrible. Tu sais, la réalité, dans ce temps-là, la profitabilité, il t'enlevait presque des points, parce qu'il disait que tu n'étais pas allé assez vite. Si t'avais pas pris cette profitabilité-là, tu serais été beaucoup plus vite. Mais surtout, on se fait parler pour la première fois, puis j'en parle aujourd'hui beaucoup avec des startups, de la qualité du revenu. Souvent, les gens disaient, OK, on faisait peut-être 4 millions à ce moment-là, puis ils disaient, ouais, mais vos revenus ne sont pas de qualité. Moi, j'étais comme, mais de quoi vous parlez? T'sais, pas de qualité. Je dis, moi, il y a un chèque qui rentre dans le compte. T'sais, je trouve ça de qualité. C'est là, évidemment, qu'on commençait à parler énormément de la récurrence, donc du revenu récurrent, de la stabilité, parce que nous, à chaque année, fallait retourner signer des festivals, fallait retourner signer des événements. On avait parfois 2 ans de contrat, mais c'était pas, il y avait pas de stabilité. Donc, c'est ce que j'ai compris, qualité égale stabilité dans le monde du capital de risque. On revient un petit peu à la pêche basse parce qu'on est habitué de se faire dire oui. Tu sais, on a quand même été un peu les gens médiatisés. On avait énormément d'attention. Fait qu'on pensait que ce serait facile. Puis là, en revenant, ça nous amenait à une réflexion. C'est ce que j'adore de me faire dire non. C'est que ça te pousse à des réflexions. Puis on s'est dit, OK, y a-tu une opportunité de prendre ce qu'on fait dans le monde événementiel et de le transformer dans le monde permanent? Et à ce moment-là, on s'est mis à réfléchir qu'est-ce qui ressemble le plus à un événement, un parc à thème. Parce qu'un parc à thème, c'est un peu comme un festival. La seule différence, c'est que ça ouvre le matin, ça ferme le soir et ça réouvre à chaque jour. Mais ce qui se passe sur le site, c'est la même chose. Il y a de la restauration, il y a de l'animation, il y a du contrôle d'accès, etc. Et à ce moment-là, donc on peut dire, là, 2018, on a commencé à avoir une réflexion sur avoir deux compagnies. Donc avoir Connect & Go événement et Connect & Go installation permanente qui allait faire des parcs familiaux, des parcs aquatiques, parce que le bracelet, si on pourra parler, j'avais blogué dans les affaires là-dessus, mais un des contrats qu'on avait eu, c'était un club échangiste. Mais ce qui est intéressant avec un club échangiste, c'est que la raison pourquoi ils utilisaient notre technologie, c'est que c'est compliqué de payer quand t'es tout nu. Tu sais, c'est comme le postulat, là. Tu sais, pense comme un consommateur. Ben, je me rappelle, le gars m'avait appelé, on aimerait utiliser ton système dans notre bar. Je fais, OK, pourquoi? Ben, il dit, on est tout nu. Je fais comme, yeah, right. Tu sais, c'est compliqué de payer nu. Je suis d'accord avec lui. Puis on l'a fait, ce projet-là, ça a été un projet assez loufoque. Mais ça m'a amené à dire, OK, c'est la même chose quand t'es en costume de bain. Parce que t'as pas non plus, c'est un peu comme être nu en costume de bain, t'as pas ta carte. Fait que les parcs aquatiques commencent à nous trotter dans la tête un petit peu à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ben, on s'est dit, on va créer deux compagnies. On en parlera par la suite. La COVID a décidé d'en tuer une des deux. Mais l'idée, puis c'est probablement la meilleure décision qui est arrivée. Mais le but, c'était vraiment d'avoir ça pour être capable d'avoir des revenus récurrents, pour être capable par la suite d'avoir une compagnie qui serait mieux financée, parce qu'au départ, on était bootstrap profitable, mais on avait quand même la famille d'Anthony qui était un peu derrière nous. Fait qu'ils donnaient quand même parfois un coup de pouce. On utilisait leur marge de crédit. On n'avait même pas notre propre marge de crédit parce que généralement, on était cash flow positif tout le temps. Notre modèle d'affaires, c'était tu closes un deal, tu prends l'argent du deal puis tu le réinvestis. Fait que ça a toujours été ça pour les premières années. Jusqu'à temps, évidemment, ben, qu'on commence le pivot. Donc, le pivot nous a amené à la première levée et par la suite, ben, la sympathique pandémie qui est arrivée dans l'entreprise.
Et là, combien vous avez levé sur la première levée de fonds?
Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, D-E-V le chiffre 2, CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
C'était 5 millions. Donc, la première levée de fonds était 5 millions. C'était 5 millions canadiens qui visaient à réussir le pivot. Donc, c'était vraiment ce qu'on avait vendu aux investisseurs. Si vous allez mettre 5 millions dans l'entreprise, la bonne nouvelle, c'est que vous avez une business. Tu es un peu comme toi, tu pourrais dans le produit. Vous avez une business à côté, Connect & Go événementiel, qui roule depuis 6 ans, qui a une super crédibilité dans le marché, qui génère entre 500 000 et 1 million de profits, 4 millions de chiffres d'affaires. Donc, elle, on va continuer à la rouler. Elle va continuer d'être là. Donc, vous, évidemment, votre 5 millions vous fait profiter de ça. Mais pendant ce temps-là, on va créer à côté un nouveau produit. On pensait utiliser le même à ce moment-là, à 80%, mais on s'est rendu compte que un parc à thème qui ouvre tous les matins, c'est pas du tout comme un festival parce que ça l'ouvre à tous les matins. Fait que ça aussi, c'est un des trucs qui nous a changé dans le développement de produits. Mais l'idée, c'était vraiment de faire les deux. Donc, on a eu la chance là, de faire le tour du monde. On a rencontré le rapper Jay-Z avec Larry Marcus et son fonds d'investissement à Los Angeles. On a rencontré des gigantesques investisseurs et on a closé le 5 millions, par contre, chez nous au Québec avec un family office.
Et je suis curieux, Dominique, parce que la business initiale avait pas nécessairement des revenus récurrents. Donc là, vous dites, on va développer un produit qui, lui, va générer des revenus récurrents. Mais la cible est légèrement différente de la business initiale. Il y avait probablement déjà des joueurs établis dans ce marché-là de longue date. C'est pas vrai qu'un parc d'amusement ou un parc aquatique n'a pas de système pour gérer en partie ses opérations, soit d'entrée ou de tout ce qui se passe à l'interne. Est-ce que c'était plus un pari risqué de dire on connaît pas trop la clientèle là-dedans puis on n'a pas de contrat pré-signé ou il y avait déjà des pré-ententes sur la table, vous aviez déjà un terrain d'ouvert puis vous étiez certain qu'un coup que le produit allait être développé, qu'il allait avoir des clients pour l'acheter puis d'amener ça à un autre niveau, là?
Je fonctionne beaucoup à l'instinct. Fait qu'il y a une bonne partie d'instinct à l'intérieur de ça, mais en fait, la première réponse, c'est à ce moment-là, puis il y a encore un changement, on était beaucoup sur le bracelet. C'était beaucoup notre identité, là, le bracelet à plus. Aujourd'hui, ça représente 20 % de nos revenus, l'aspect bracelet dans ce qu'on fait. Mais Disney avait annoncé un investissement d'1,6 milliard de dollars pour développer le Magic Band, qui est toujours là. Hein. Si vous allez à Disney, vous avez la possibilité d'acheter un bracelet en upsell qui va coûter 15-20, l'édition spéciale Star Wars, 195 $ pour le bracelet, qui va vous permettre d'ouvrir votre porte de chambre d'hôtel, qui va vous permettre de payer au parc, qui va vous permettre le photo pass. Donc, il y a du Bluetooth à l'intérieur. Vous passez dans une ride, ça prend une photo de vous autres, ça vous la revend. On a acheté deux compagnies qui font ça durant la pandémie. Donc, la réalité, moi, j'aime mieux copier quelque chose qui existe et le faire mieux et peut-être le marketer ou le commercialiser différemment. Il y avait très, très peu de parcs qui utilisaient des bracelets intelligents. Le milieu des parcs était en retard au niveau technologique. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est Disney le fait pour 1,6 milliard. Ben, nous, on va le rendre accessible pour le mid-market. On s'est dit, il y a définitivement une opportunité si on le fait. On avait eu quelques discussions avec certains parcs, mais c'était quand même assez léger. C'était énormément d'instinct. Par contre, je me rappelle, il y avait une question que tu poses souvent, tu sais, sur la pire erreur. Ben, une des pires erreurs, c'est qu'on s'est lancé le premier marché, c'est dans le ski. Aujourd'hui, on fait plus du tout de ski. On est devenu en un an le plus gros joueur dans le domaine du ski au Québec. Et l'année d'après, on a fermé le ski. Parce qu'au début, ce qu'on s'était dit, c'est le ski. Parce qu'évidemment, le RFID est un peu notre cœur de métier. On s'est dit, ben, on va faire un système avec une carte à puce dans le ski qui va aussi permettre de payer au resto, le cashless, etc. Donc, on a attaqué le marché du ski. Si on avait une belle traction dans ce marché-là, on avait sous-estimé de faire du hardware parce que là, on faisait aussi les portillons RFID qui permettaient de scanner en plein hiver à moins 40, là, ce qui était assez complexe. Donc, on s'est lancé dans plusieurs directions, le ski, des parcs à thème, des parcs aquatiques. Le produit s'appelait Park Pass à ce moment-là. Donc, on l'avait vraiment commercialisé. C'était une main avec un bracelet qui était commercialisé. Et ça a commencé. Puis les investisseurs y croyaient parce que, encore une fois, la bonne nouvelle avec Connect & Go, c'est que tu peux toujours dire, j'ai fait le Super Bowl, j'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai la reconnaissance du marché, je suis crédible. Donc, je devrais réussir à l'amener dans un autre marché. Fait qu'on avait réussi à convaincre les investisseurs que le 5 millions, un, serait amplement suffisant. Nous, on pensait que ça finissait là. T'sais, avec 5 millions, je me rappelle, moi et Anthony, on pensait qu'on était riche pour la vie, qu'on allait avoir des fonds. T'sais, nous, on avait bootstrap la business. Fait qu'on se disait, wow, on a réussi à l'amener de 0 à 4 millions avec rien. Tu mets 5 millions de dollars dans l'entreprise. C'est juste, on va l'amener. Je me rappelle, je pense qu'on disait qu'on allait l'amener à 30 millions de revenus avec ce 5 millions-là. T'sais, comme même si j'avais de l'expérience en affaires, là, j'ai fait mes mêmes conneries du hockey stick, puis l'argent va arriver et tout va se régler. Fait qu'on a levé ce 5 millions-là 8 mois avant la pandémie. Fait qu'il n'a pas été utilisé nécessairement non plus pour ce qui était prévu.
Et là, ce 5 millions-là, juste avant la pandémie, il vous en restait peut-être quoi, 3-4 dans les coffres avant que la pandémie arrive?
Je pense qu'il en restait 3,5. 3 ou 3,5. Parce qu'évidemment, le problème avec ta première levée de fonds, c'est que tu fais l'épais. Fait que, tu sais, première levée de fonds, on a embauché du monde, mais du monde, puis du monde qui savait pas ce qu'ils font, puis que nous, on savait pas non plus ce qu'ils faisaient. Mais on se disait qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on rajoutait du monde. T'sais. Fait que ça, c'était la solution à tout. On va rajouter du monde. Ça. Puis notre staff nous disait toujours ça. T'sais, mon directeur engineering, manque de staff. OK, manque de staff, vas-y, sous-traitance, machin truc. On a brûlé. Là. Sincèrement, on a brûlé pas mal au départ. Puis je pense qu'il devait rester ouais, 3,5 ou 3, 8 mois après. Parce qu'on a brûlé à peu près 1 million peut-être sur cette période-là, un petit peu plus. Puis là, ben la pandémie est arrivée. Fait que évidemment là, tout a changé parce que nous on a perdu 98 % de nos revenus. Je blague toujours que le 2 % restant c'est des dépôts qu'on n'a pas remboursés. Fait que on peut dire qu'on a perdu 100 % de nos revenus. Puis nous ça a même commencé plus tôt parce qu'en janvier on devait faire la PGA puis on n'était pas capable de recevoir nos puces parce qu'ils étaient évidemment produits en Chine. Donc même avant, tu sais moi je me rappelle il y a eu des phases dans tout ça. La première phase c'était on doit trouver un fournisseur autre que chinois pour faire nos puces. C'était juste ça, notre problème. C'était pas on va avoir une pandémie chez nous. C'est OK, il y a une pandémie en Chine, elle va rester en Chine, merci. Puis on va appeler des gens en Inde, on va regarder où on pourrait avoir un nouveau sous-traitant. Un mois après, c'était OK, la pandémie est en train d'attaquer d'autres pays dans le monde, donc on va focusser sur l'Amérique du Nord, ça devrait pas venir nous rejoindre. Puis par la suite, ben, ça a été la pandémie va frapper l'entièreté du monde. On n'a plus d'événements, on a perdu les Jeux olympiques de Beijing qui étaient signés, la Formule 1, donc on recevait les annulations. Et je dirais qu'en l'espace de 3 mois, ça a été un hécatombe. Je devais laisser aller 10 personnes par jour à peu près à pied sur Zoom. Le bureau qui est fermé, Et ça devait être notre plus belle année à vie. Donc, ça a été très, très difficile là, sur la portion événementielle. On était sur une superbe lancée. Mais tout est tombé à zéro. Et en fait, le problème, c'est qu'on était très, très loin d'être prêt à commercialiser le produit dans les parcs d'attractions.
Donc, vous êtes retrouvé en plein milieu de pandémie dans probablement une des pires situations où ce que l'argent commence à sortir des coffres, pratiquement plus de revenus qui rentrent parce que c'était pas des revenus récurrents, en plein pivot de développer un nouveau produit. Tout le monde est à distance à ce moment-là. Pas possible de faire de nouvelles ventes. L'économie mondiale, ou plutôt de l'événementiel, est fermée de A à Z. Honnêtement, ça a dû être une période en tant qu'entrepreneur que Dominique, t'as dû te dire, mon Dieu, tout est contre moi là, de A à Z.
Oui, ça a été très dur, surtout que dans mon autre vie entrepreneuriale, dans l'agence où on s'est rencontrés, j'ai tout perdu. Fait que tu sais, quand t'as tout perdu une fois, t'as fait qu'il y a un sujet qui est très tabou au Québec, une proposition consommateur. Tu sais, moi, ça a été, je suis devenu un paria economicus. T'es devenu quelqu'un qui a plus accès au crédit, t'es devenu quelqu'un qui a échoué dans ce milieu-là, qui est très anti-échec. Même si tout le monde parle, là, c'est cool l'échec. Non. Québec, là, c'est pas cool l'échec, loin de là. Et là, j'ai eu la peur de dire, pas une deuxième fois, s'il te plaît. La première fois, c'est de ma faute et pas de ma faute, ce sens d'une fraude. C'est de ma faute parce que je l'ai pas vu venir puis j'ai peut-être pas été assez à l'affût, donc j'en prends une grande part de responsabilité. Puis là, j'étais une pandémie. J'étais comme, on peut-tu me laisser tranquille d'une certaine façon? Puis oui, on a perdu, te dis, la quasi-totalité, c'est la totalité. Il y avait rien de récurrent. Les événements, eux autres non plus, il y avait plus d'argent. Fait que même, il y en a qui t'avaient donné des dépôts, qui disaient, peux-tu me leur donner? Puis toi, tu disais, j'ai plus d'argent, je peux pas te redonner ton dépôt. Puis tu sais, ça devenait très, très difficile à ce moment-là, dans ce secteur-là. Donc évidemment, on voit nos revenus qui fondent comme au soleil. Au début, en plus, ben, t'essayes de garder tes équipes. Parce que tu te dis, ben, tu sais, si j'ai peur, c'est des personnes importantes qui sont là. Après 3 mois, ben, t'as pas le choix de les laisser aller. Fait que ça a été aussi un peu la fin de l'équipe, de cette famille-là qu'on avait créée autour de l'événementiel. Et effectivement, là, évidemment, il y a des gens qui étaient là depuis 7-8 ans. Donc, même si tu les laisses aller, il y a un coût à laisser aller les gens. Fait que ça fait sortir de l'argent. Certaines décisions, on a été bon parce qu'on a pris des décisions rapidement, ce qui nous a permis de protéger de la trésorerie. Mais ça a été difficile. Les subventions ne s'appliquaient pas à nous. Parce qu'en événementiel, le gouvernement va oublier que, grosso modo, ce que tu fais, c'est que tu travailles pendant 5 mois et tes revenus arrivent une fois que tu livres l'événementiel. Et là, la reconnaissance des revenus était basée sur combien tu avais fait l'année passée au même moment et combien tu avais perdu en ce moment. Mais nous, c'était la période où on faisait zéro. Fait que quand tu fais à peu près zéro, ben c'est facile de dire « j'ai pas diminué à moins que zéro ». Donc, pas de subvention, j'ai fait des sorties publiques, troubles de santé mentale. J'ai réussi à bien m'en tirer, mais tomber un peu dans la bouteille. T'sais, ma femme me retrouvait, j'avais bu une demi-bouteille de scotch sur le plancher parce que j'avais besoin d'endormir, en fait, ces pensées noires-là un petit peu. J'ai continué à aller au bureau seul tous les jours. J'avais ce besoin-là, donc je prenais l'auto. Même si je sais qu'on n'avait pas le droit, je rentrais dans mon bureau, j'allumais les lumières, je me faisais un café, puis là, le lait était caillé parce que plus personne qui achetait du lait. Puis je me commandais du Uber. C'était pour moi de rester connecté avec la réalité. Là. C'était le livreur Uber qui te laissait ça à 8 km de la porte. À ce moment-là, on avait tous peur. Puis, mais ça a été, oui, ça a été très difficile, mais en même temps, ça a été très mobilisateur pour la suite. Souvent, c'est dans ces moments-là que tu as l'opportunité de prendre des décisions rapides, mais des bonnes décisions parce que tu n'as pas le choix de les prendre. Contrairement à quand tu as bien de l'argent dans le compte puis tout va bien, je pense que tu en prends un petit peu moins vite.
Effectivement, puis je te lève mon chapeau parce que tu as continué à être quand même public beaucoup durant cette période-là difficile de ta vie, puis je pense que tu as inspiré beaucoup de gens à continuer puis à passer à travers tout ça parce que on s'entend en tant qu'entrepreneur, on a tous vécu la pandémie d'une manière différente. Il y en a qui l'ont eu très difficile, d'autres difficile, mais très peu qui l'ont eu super facile pendant la pandémie. Puis le fait que t'es sorti public de qu'est-ce qui se passait un petit peu de ton côté, je pense que ça a rejoint beaucoup d'autres entrepreneurs qui probablement nous écoutent aujourd'hui qui disent « c'est vrai, ça m'a aidé de savoir que, mon Dieu, on n'est pas tout seul dans ce bateau-là. » Puis ces moments-là difficiles, c'est difficile d'en parler en public, mais quand les gens en parlent, on se rattache à ça puis on se donne un peu d'espoir puis un peu d'énergie. Puis je te félicite honnêtement d'avoir continué à travers tout ça d'en parler publiquement de ce qui se passait de ton côté.
C'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé, mais que je suis un peu déçu, je te dirais, aujourd'hui. J'ai réellement senti durant la pandémie, on parlait d'achat local, mais aussi un sentiment de entre compétiteurs, on s'appelait. Entre entreprises, CEO technologiques, on s'appelait pour se donner des conseils, OK, comment t'as fait tes coupures, etc. Puis je trouve que malheureusement, on est vite revenu dans nos bottines. On est vite revenu après la pandémie, beaucoup plus à s'isoler, beaucoup plus à refaire nos petites affaires chacun de notre côté. Puis pour moi, ça a été effectivement un bon moment là, quand l'article est sorti dans la presse. Je me rappelle, je les ai appelés à 24 heures, s'il vous plaît, ne le diffusez pas. Ça, je me disais, mes investisseurs, là, tu sais, qu'ils vont penser, là, je fais la une de la presse en disant que je pleure, parce que déjà, un homme qui pleure, c'est pas très, très bien vu dans l'auto tous les matins avant de rentrer. Ils vont dire, tu sais, puis moi, je suis en train d'essayer de les convaincre qu'il fallait qu'ils remettent de l'argent, même s'il n'y avait plus rien, pour que la business, je fais comme, faites pas l'article, puis après, j'ai dit, fuck off, faites-le. Tu sais, je dis un peu délivrance, on va y aller. J'ai reçu effectivement beaucoup d'appels, beaucoup de discussions transparentes, puis une évolution hallucinante sur la santé mentale des dernières années. Mais je trouve qu'on est en train de revenir. J'ai investi, c'est pas le sujet, dans notre compagnie qui s'appelait Rose Bouddha, qui fait des leggings éco-responsables au Québec, avec les fondateurs de Frank & Oak. Puis tu vois, justement, l'achat local, tu sais, à ce moment-là, c'était super bon, mais aujourd'hui, on le voit, c'est une question de prix. On vient vite sur notre ami Amazon.
Effectivement, je pense que ça a rassemblé beaucoup de gens localement pendant cette crise-là, puis cette grande problématique-là qu'on a vécue, mais les gens retombent rapidement dans leurs souliers puis leurs bottines habituelles, malheureusement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, on arrive à cet épisode-là, je pense, qui a été le plus grand pivot, là, de toute ton histoire entrepreneuriale, que tu dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est-ce qu'on s'en va avec la business? Je pense que tu avais t'étais obligé un peu de laisser aller pratiquement tout le monde, je pense, dans l'organisation, là, au début de la COVID, là, c'est bien ça?
De laisser aller peut-être 80% des gens. Donc, on a gardé un core team. Puis ce qui a été le fun un petit peu de la pandémie, puis j'utilise le fun là avec tout le malheur qui était autour de ça sur la business, sur les gens qu'on est laissé aller, je me sentais comme dans un hackathon. T'sais, c'était vraiment le feeling que j'avais, puis on blaguait un petit peu le film Facebook là, t'sais, qu'on a tous écouté. Là. On s'est vraiment senti comme ça. Fait qu'on est passé d'un mode défensif, donc un mode c'est un peu difficile, je laisse aller des gens, à réaliser une chose. La première chose qu'on a réalisée, c'est si on souffre, la seule chose qui était bien avec la pandémie, c'est que tout le monde souffre en même temps. C'était la première fois où c'était un peu un fair game. T'sais, de dire, il n'y avait pas une compagnie événementielle aux États-Unis qui disait, ben nous, tout est ouvert, on continue d'imprimer de l'argent, puis c'est merveilleux. Fait que je me suis dit, OK, tout le monde souffre en même temps, opportunité. On a convaincu nos investisseurs de réinvestir 2 millions. On n'avait plus rien. Hein. T'sais, sincèrement, là, c'était un peu fou pour eux, surtout qu'on avait déjà brûlé le premier 5. Mais ils ont bien aimé notre approche. On a dit, on va réinvestir dans deux choses. On va réinvestir dans le produit, ce qui veut dire qu'on va créer peut-être 4, 5, 6 initiatives. Donc, on n'était pas focus, là. C'était... On va chercher des opportunités durant la pandémie pour être capable de développer soit du produit temporaire pour survivre. Donc, on a développé un bracelet qui s'appelait le Safe Band, qui était un bracelet qui vibrait quand tu approchais 2 mètres de quelqu'un puis qui faisait la traçabilité des gens dans les usines. On a vendu ça à Fox News aux États-Unis. Vidéotron l'ont distribué au Québec. Fait que ça a été un produit qu'on a développé qui aurait dû prendre 2 ans, qu'on a fait en 1 mois et demi. Donc ça a été une des initiatives. Donc, on a dit, vous mettez 2 millions. Une bonne partie, on va faire des initiatives qui vont marcher ou pas, mais on va essayer des trucs. Et l'autre million, c'était quand même assez fou. J'ai dit, je veux rembaucher une équipe de vente puis une équipe de marketing. Je veux augmenter nos dépenses en vente et marketing. On veut attaquer le marché des parcs d'attractions. On va se payer la une des magazines. Ça va coûter 90% moins cher. Il n'y a plus personne qui veut l'acheter. On va commencer à faire des webinaires sur les aider puis faire des peer groups de gens d'attractions. Comment ils peuvent s'aider avec la pandémie? On va utiliser notre technologie pour la distanciation sociale, pour faire de la gestion de file d'attente. Donc, on a tout créé ces initiatives-là. On a pris le core team, mon directeur de produit aujourd'hui, Marc-André. On a pris mon directeur à ce moment-là de l'engineering et de la technologie, Mathieu, qui avait déjà fait Ticket Pro, une grosse billetterie ici. On est allé chercher quelqu'un à l'extérieur, puis on les a réellement un peu enfermés dans un chalet. Fait qu'on avait une équipe qui codait la nouvelle plateforme. Donc, c'est là aujourd'hui qui s'appelle Connect, qui est le produit principal de Connect & Go. Et pendant ce temps-là, on a réalisé sincèrement 1 million de projets, que ce soit le Safe Band, que ce soit on a fait de la gestion de reconnaissance de nombre de personnes dans une salle pour la distanciation sociale. On avait Ivan Wickenbridge qui me disait, on sait pas comment les gens vont pouvoir monter à leurs étages avec les fils dans les ascenseurs. Donc, on a commencé à travailler sur des systèmes de queuing, gestion des files d'attente avec système de réservation pour dire quand tu vas prendre l'ascenseur, des trucs de fou. Mais on a réalisé des trucs très, très rapidement et ça nous a permis de se positionner à une vitesse extrêmement vite. On est dans une industrie aujourd'hui des parcs d'attractions où il n'y a pas eu de nouveaux joueurs dans les 15 dernières années. Il n'y a personne qui est rentré dans ce marché-là depuis 15 ans. C'est un marché de référence. C'est un marché, tu donneras jamais à une start-up ta billetterie pour ton parc d'attractions. Si le système y plante, ton parc n'ouvre plus. Donc, ça a été un moment où on a réussi à se positionner vite, où on a réembauché des gens en vente, en marketing, on s'est positionné en avant et ça a vraiment été très, très payant. Donc, on a développé là, Connect, la plateforme aujourd'hui qui est principalement utilisée, qui va réaliser un peu plus de 300 millions cette année en transactions. On l'a développé en 6 mois. Aujourd'hui, on refait le même process. Je m'attends que ce soit 3 ans, 3 ans et demi, développer un produit similaire. Pourquoi? Parce que, 1, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc, les techs ne seront pas dérangés par 8 projets custom puis la division événementielle qui veulent faire des trucs. On avait un seul focus dans cette équipe-là, c'est vous développer telle plateforme. Et grosso modo, on avait aussi le désespoir de dire, ben il faut réussir parce qu'échouer, c'est la fin. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur, mais qui est quand même assez motivant quand tu as cette pression-là de dire, il faut réussir. Puis évidemment, bon, on est content aujourd'hui, ça a été la plus belle décision d'aller vers ça. La plus dure a été de dire adieu finalement à l'événementiel. On a attendu quand même un an et demi pour prendre cette décision-là. On continuait un peu de dire non, on va continuer d'en faire, ça va revenir. Puis après un an et demi, on a dit, garde, on n'en parle même plus, ça fait plus partie de l'offre de service. On tue 4 millions à peu près de business. On tue le produit. Parce qu'aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'avantage d'un festival, c'est que tu peux coder sur place, tu peux tenir les fils pendant le festival, tu es un peu fatigué à la fin, mais tu es capable de faire tenir le système quand c'est permanent. T'es pas capable, donc l'importance d'une stabilité, l'importance d'une technologie qui est plus solide, plus robuste. Donc, on a tout refait à zéro et on a pris cette décision-là difficile, qui est encore difficile. On a reçu un petit appel d'offres pour des Jeux olympiques dans un pays français qui arrive bientôt. Puis celui-là, ça se peut qu'on y réponde. C'est ça, l'équipe, je les ai demandé la faveur. Je dis, un événement, les Jeux olympiques, ça, on pourrait-tu essayer d'adapter un peu ce qu'on fait pour ça? Mais on a complètement, là, je me rappelle, Oceaga, ils sont arrivés avec un chèque, dire OK, les festivals repartent, on est prêts. J'étais comme, je peux pas prendre votre chèque, même s'il est merveilleux, ce chèque-là, parce qu'il était prêt à payer beaucoup plus cher. J'ai plus l'équipe, j'ai plus la techno, faudrait la rebâtir parce qu'après 2 ans, t'as besoin d'y redonner de l'amour, faudrait que je réinvestisse. Puis on a choisi une autre destinée, un autre marché qui est le monde des attractions.
Et ce moment-là de dire on arrête l'événementiel, est-ce que c'était un moment où ce que l'événementiel n'était toujours pas reparti puis que vous aviez déjà assez de revenus de l'autre côté au niveau des attractions? Probablement pas, parce que si les événementiels sont pas ouverts, les parcs d'attractions, ça doit être limité aussi, donc il y a dû avoir un enjeu de dire de vélocité de revenus. Vous avez pris quand même, je pense, un risque énorme de dire qu'on met ça en arrêt complet, qu'on le vend pas, là. On le tue au complet, de ce que je comprends là.
Oui. C'est même au contraire. En fait, l'avantage quand les événements étaient fermés, c'est qu'on n'avait pas besoin de prendre la décision parce qu'il n'y en avait pas. Fait que tu sais, on continue à dire OK, quand ça va revenir, on continuera. Quand c'est revenu, puis que là, ça a commencé à dire, OK, ça revient, il va falloir investir dans 2 produits. Parce que là, on est rendu, le produit d'attraction était peut-être rendu, la bonne nouvelle, c'est que les attractions étaient relativement ouvertes, 30% de capacité, mais ouvertes. On avait le Super Aqua Club qui a été notre premier client. Merci à Nadine de nous avoir fait confiance à ce moment-là. Et le Zoo de Granby, quand même 2 des plus grosses attractions au Québec. T'sais, on a réussi à lui vendre quand même notre vision puis où on s'en allait. Fait qu'on avait commencé avec 2 clients à ce moment-là. Fait que je dirais à peu près 500 000 de revenus dans le monde des attractions versus quand même un 4,5 dans l'événementiel. Donc, mais quand les événements sont venus, là, on a regardé, on a dit, OK, là, faut réembaucher une équipe qui va aussi faire l'événementiel. Là, faut refaire la plateforme, faut réinvestir. Donc, ça t'amène une question sur est-ce que tu veux vraiment réinvestir? Est-ce que c'est vraiment sustainable comme projet? Puis l'avantage que j'ai, c'est d'avoir une équipe de direction qui est très différente de moi, incluant mon chef des opérations, François Pierre, qui est ultra data-driven. T'sais, moi, je suis typique entrepreneur. C'est de l'instinct, c'est au feeling. Je pense qu'il faut aller à gauche, on y va. Lui a commencé à travailler avec Gabriel à ce moment-là, qui était notre CFO, dire, regarde, Dom, c'est pas le fun de l'événementiel, c'est pas vraiment profitable. T'sais, c'est profitable d'un point de vue concept global, mais avec ce qu'il va falloir remettre comme argent, etc., c'est pas récurrent. Puis pendant ce temps-là, on n'a pas le focus sur ce qu'on pense qui est la bonne stratégie. Mais ça a été vraiment difficile parce qu'on a reçu, tout le monde nous rappelait. T'sais, tout le monde disait, hey, mon festival Youv, ça t'intéresse-tu? Je pense qu'on aurait fait 4-5 millions cette année-là en événementiel, mais il aurait probablement fallu en mettre 4-5 aussi pour rebuilder toute l'équipe, etc. Fait que ça l'a poussé, cette décision-là. Puis sans celle-là, je pense qu'on serait très, très loin d'où on est aujourd'hui parce que le focus nous a vraiment poussé à aller vite. Puis en termes de revenus, t'as des grandeurs d'idées, on a fait en 2020 1 million. Donc, en pleine pandémie, on a réussi quand même à aller générer 1 million. Je sais qu'il y a des compagnies qui prennent beaucoup d'années pour faire ça. C'est nous, en un an, le désespoir aussi fait qu'on était sales-driven. En 2021, on a fini à 3 millions. On est encore sur la pandémie, mais on continue de croire dans le monde des attractions, prendre notre place parce qu'on a été présent. En 2022, on sort vraiment là, t'sais, complètement de la pandémie, 7,3 millions. Et là, on parle évidemment là, t'sais, de revenus récurrents. Et on va terminer un peu plus de 10 millions. En ce moment. Fait qu'on a quand même vraiment, puis là, on passe de 5 millions non récurrents en service avec bien du staff puis du hardware à des revenus permanents, des contrats de 3 à 5 ans, parfois de 10 ans, 300 millions en transactions qui transigent par nos systèmes. On est un PayFact. Tout le système de paiement, c'est Connect Payment, un peu comme Lightspeed. Donc, c'est complètement game changer, la valorisation aussi de l'entreprise. On a des investisseurs aujourd'hui très heureux d'avoir pris cette décision-là audacieuse de remettre un 2 millions en pleine pandémie. Je pense que ça a été le capital le plus efficient qu'on a jamais utilisé.
Dominique, c'est tellement impressionnant de t'entendre conter cette histoire-là. Hors d'onde, avant l'enregistrement de cet épisode-là, on parlait un peu de l'histoire de GSoft, puis je vois tellement un parallèle sur l'histoire de GSoft. Si vous voulez pas écouter épisode numéro 1, quand ils ont laissé aller leur partie service, à peu près un 5-6 millions de volume d'affaires, c'est un peu la même chose avec l'événementiel. C'est une belle business en soi, là, puis vous avez décidé de dire non, on met une croix là-dessus, puis on voit beaucoup plus de potentiel dans le revenu récurrent. Mais encore là, c'est un peu un leap of faith que vous avez fait au bout de la ligne avec la pression des investisseurs en arrière qui avaient quand même mis beaucoup d'argent. Vraiment, Dominique, félicitations d'avoir fait ce mouvement-là puis d'être passé à travers cette tempête-là. Puis c'est beau de voir ça évoluer par la suite. Elle commence à sonner en début d'épisode. La discussion avec Dominique Gagnon était tellement intéressante que nous avons étiré le temps plus longtemps que normalement nous voulons le faire avec les entrevues. Je voulais pas couper Dominique parce que c'était tellement intéressant, en tout cas pour moi, puis j'espère que ça l'a été pour vous jusqu'à date. Ne manquez pas la suite, la partie 2 qui s'en vient dans les jours à venir devant nous. C'est du bonbon, du knowledge et de l'expérience vraiment pertinent qui nous est partagé par Dominique. Donc, soyez à l'écoute pour la partie 2 qui va suivre dans les prochains jours. Donc, merci à tous d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous, donc notre récompense est votre partage ou votre abonnement au podcast. En ce sens, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, prenez un 30 secondes pour le partager ou vous abonner. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Vous êtes nombreux avec qui, à chaque semaine, je m'entretiens la continuité des sujets du podcast ou même vous êtes nombreux à nous référer des invités potentiels. Donc, n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn directement. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine. We'll